Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour tout le monde. Si vous n'habitez pas Paris, mais que vous avez un voyage à faire avec une escale dans la capitale, ou si vous êtes de passage à Paris, je vous recommande de faire un tour du côté du musée du Quai Branly, le musée Jacques Chirac, pour voir l'exposition Picasso primitif, m'en invité. Ce matin est le commissaire de l'exposition, Yves Le Fur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes par ailleurs le directeur du patrimoine et des collections du musée du Quai Branly, Picasso primitif. C'est tout à la fois l'initiation aussi de Picasso à l'art primitif.
Oui, c'est la découverte de cet art, disons, des arts d'Afrique et d'Océanie. C'est la découverte d'une forme d'art, une forme de présence, une forme d'expression qui était nouvelle à l'époque et que cherchait Picasso pour passer à autre chose après période bleue et période rose qu'on connaît.
Donc, il découvre ce qu'on appelait à l'époque, on n'appelait pas ça d'ailleurs l'art primitif, ni l'art africain à l'époque.
Alors, on appelait ça l'art nègre. Alors, ça voulait dire à la fois les arts d'Afrique et d'Océanie, un petit peu en opposition aux arts des Amériques, qui étaient les arts des grandes civilisations, aux arts d'Asie, aussi de grandes civilisations. Mais Picasso ne s'intéressera que très très peu pratiquement pas, justement, aux arts des Amériques ou d'Asie. Il ira toujours puiser dans la simplification et la force de ces arts que nous conservons au musée du Quai Branly pour nourrir, en fait, sa création.
Voilà. Et comment appeler ces arts? Eh ben voilà, c'était l'art nègre. Maintenant, c'est l'art primitif. Vous parlez aussi de relations de Picasso avec les arts non occidentaux.
Oui, on préfère dire des arts non occidentaux ou tout simplement des arts d'Afrique ou d'Océanie, enfin comme on peut dire l'art français ou l'art occidental.
Alors cette exposition, Picasso primitif, privilégie plutôt la chronologie, c'est-à-dire comment Picasso découvre les arts primitifs. Et cette enquête chronologique, c'est un peu l'ossature de cette expo.
C'est pas exactement l'ossature, parce que ça serait décourageant de dire que cette exposition est simplement basée sur une chronologie. Elle est en effet, mais elle est conçue en deux grandes parties. Et cette première partie chronologique, moi je l'ai voulu un petit peu étendue, pas simplement un panneau à l'entrée de l'exposition, mais pour montrer que Picasso ne s'était pas intéressé seulement au moment des Demoiselles d'Avignon à ce qu'on appelait l'art nègre, ou ce qu'on disait de lui sa période nègre, mais que cet intérêt s'est conservé toute sa vie. Donc c'est par tout un ensemble de documents,
de citations
de Picasso ou de récits de ce que Picasso aurait dit, parce que quelquefois il y a des ambiguïtés, il y a des contradictions aussi que j'ai laissées, et puis des photographies qui montre les différents lieux de vie et de création de Picasso, où on distingue, on s'est amusé à cercler des images un peu floues, mais qui correspondent aux objets que Picasso a pu collectionner. Et puis les objets eux-mêmes, qui sont là aussi, et qui ont été achetés par Picasso, acquis ou échangés contre des tableaux tout au long de sa vie. Et c'est si vous voulez le grand intérêt pour moi de montrer qu'en fait tout au long de sa vie, cette idée de présence d'œuvres d'Afrique et d'Océanie a perduré, et qu'elle a perduré non pas comme une influence directe C'est pas une comparaison, c'est pas de dire regardez ces objets kanak ou ce masque de Côte d'Ivoire, eh bien on retrouve la même chose dans sa peinture. Non, ça n'avait pas ce rôle pour lui. Ça avait un rôle qu'il a dit magique. Ça avait un rôle de rappel comme intercesseur par rapport à des forces qui étaient difficilement dominables. Et c'était quelquefois dans son bazar, sous des papiers, entre des bocaux de peinture, et on le voit dans un certain nombre de photographies. Donc toute cette chronologie est rythmée depuis 1900. C'est-à-dire, c'est le moment où Picasso arrive à Paris pour apporter une de ses toiles au pavillon d'Espagne de l'exposition universelle, qui se trouvait pratiquement à la place du musée du Quai Branly, d'ailleurs, c'est un peu hasard, et où il va commencer à se mettre en relation avec les artistes Matisse de Reims, qui eux aussi sont très intéressés par ces arts-là, et puis ça va jusqu'en 1974, un an après sa mort.
Mais d'une manière ou d'une autre, cet art primitif va influencer Picasso.
Oui, absolument, quand on parle d'influence en art, on parle de quoi ? C'est tout un monde, si vous voulez. Et ce que va montrer la deuxième partie, c'est comment en fait ces arts vont voyager à l'intérieur de la personnalité de Picasso et vont quelquefois être immédiatement utilisés, exploités, si on peut dire, ou bien quelquefois très très longtemps après. Une trentaine d'années après, quelque chose va ressurgir. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Qu'est-ce qui ressurgit justement, Yves Le Fur ? Est-ce qu'on peut parler de la relation de Picasso à la représentation du corps tel qu'il se faisait, d'une manière plutôt décomplexée, en tout cas d'une manière qui n'était pas du tout occidentale, du corps humain ?
Alors, ce qui frappe Picasso dans le premier objet qu'il voit, qui est un masque Fang très simple, hein, c'est un ovale avec les sourcils en vol d'oiseau, un nez triangulaire et puis deux petits yeux. C'est une simplification qui lui permet de s'affranchir en quelque sorte de la ressemblance, du portrait, de l'aspect psychologique des émotions. Vous savez que tout l'art occidental participe de cela, que ça soit des émotions de domination, des bustes en marbre, que ça soit des émotions plus subtiles. Et donc cette absence d'émotion, elle le frappe comme elle l'a frappé dans l'art catalan, la Vierge catalane de Gozol, qui est aussi au centre, au début de l'exposition. Parce que ces différents formes, en fait, sont agencées dans une construction qui les libère justement de ce mimétisme. Et à partir de là, il va pouvoir, il comprend très vite qu'il va pouvoir refaire, recombiner dans un sens de figuration ou dans un sens de défiguration. Et ça, c'est assez intéressant parce que, justement, les arts non occidentaux, que ce soit des masques ou des statues, ne s'encombrent pas, en fait, parce qu'ils sont en train de traiter des forces surnaturelles, ils s'encombrent pas des émotions humaines, mais ils sont en liaison, en quelque sorte, avec des forces qui nous dépassent. Et c'est ça que Picasso va comprendre, et il va aller chercher ça aussi au fond de lui, parce que de manière très profonde, en fait, il a une idée quasi sacrificielle de son art. Et c'est ça qui est intéressant de montrer dans la deuxième partie d'exposition.
Alors, comment on fait le tri à partir des œuvres de Picasso, Yves Le Fur, pour cette exposition au Quai Branly ?
Les œuvres de Picasso, là, nous ont été très aimablement prêtées par le musée national Picasso. Il y a des dessins, il y a des peintures, il y a des sculptures, des montages, des choses qui sont un petit peu de moindre importance, à savoir des petits morceaux de fil de fer tortillés, des choses comme ça. Mais on s'est servi de tout ce qui était disponible. Et j'ai cherché dans la collection du musée du Quai Branly des des correspondances, des résonances, vous voyez, pas des comparaisons pied à pied ou mano à mano, mais des œuvres qui pouvaient se répondre parce que les artistes qui les avaient faits avaient eu les mêmes soucis, si on peut dire, que le grand maître de l'art occidental. Et c'est là où les deux, à savoir les deux types de création, même si elles se trouvent en Papouasie, Nouvelle-Guinée ou au Gabon, où, se rejoignent.
See jungle, don't join your gang, yeah. City all over, going crazy. See jungle, don't join your gang, yeah. City all over, going crazy. Jungle boy, don't fear, the laws are different here now. Jungle boy, come near, the laws are different here now. Jungle boy, we cheer, the laws are different here now. We all cheer! Jungle boy, I've you.
Alors, comment on déambule dans cette exposition, Yves Le Fur?
Donc une fois qu'on a passé la chronologie, qu'on a eu qu'on est équipé en quelque sorte et qu'on est convaincu que cela avait de l'importance pour la création de Picasso, on rentre dans une autre partie de l'exposition où les œuvres se répondent justement, quelquefois une toile de Picasso, quelquefois avec 4-5 sculptures, ou bien quelquefois des œuvres graphiques de Papouasie ou de Nouvelle-Bretagne avec des œuvres graphiques de Picasso. Et donc, si vous voulez, il y a des sortes de rythmes comme ça, c'est une sorte de danse en quelque sorte, c'est une espèce de chorégraphie entre Picasso et les autres.
Comment vous l'avez conçue, cette chorégraphie? Est-ce que c'est votre sensibilité de commissaire, ou est-ce que vous avez travaillé sur toutes les influences de Picasso, les pièces qu'il avait, ou qu'il a vues, ou dont vous êtes à peu près certain qu'elles ont eu de l'importance de son vivant? Comment, par exemple, pour une toile représentant un nu debout de profil, vous avez trouvé effectivement la statuette africaine qui renvoie d'une manière des fois troublante, souvent d'une manière évidente, mais parce que c'était à la base un travail sourcé, ou c'est une manière aussi de prendre un peu de distance et de liberté pour parler de non seulement de Picasso et des arts primitifs, mais aussi d'une époque.
Oui, on a vu quelles étaient les œuvres qui lui étaient familières en quelque sorte, les canaques, des types de tel type de masque, etc. Dans la deuxième partie, pour choisir les œuvres, c'était faire comprendre, par exemple, comment une statue Fang, par exemple, composée d'un certain nombre de parties géométriques, pouvait répondre à un dessin de Picasso composé lui-même de parties géométriques. Peut-être pas exactement les mêmes, mais le principe de création est le même. Et c'est sur des principes de création que je suis parti. Des principes plastiques, si vous voulez, d'organisation formelle. C'est-à-dire que dans une partie du début de cette deuxième partie, je m'embrouille un peu, mais vous avez par exemple ce qui est de l'ordre de l'archaïsme, de la silhouette,
du corps, comme on le représentait juste avec des lignes.
Voilà, une simple ligne jusqu'où on peut aller pour qu'elle puisse dire le corps humain. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre de jeux que Picasso a vus, par exemple dans les masques africains, ce qui est celui du plein, du vide, de la saillie et du retrait. Comment il a vu, par exemple, dès 1912, dans des masques dont les yeux étaient des tuyaux, et comment il a compris qu'en fait le plein et le vide pouvaient s'inverser. Et comment lui a fait non pas des masques, mais des guitares. Et après, une fois que ça a été acquis dans son processus créatif, il a pu continuer à différents moments de l'utiliser. Et puis vous avez un deuxième principe créateur, en quelque sorte, qui est un peu plus complexe, que j'ai appelé métamorphose, qui consiste à utiliser à l'intérieur d'une seule et même œuvre un certain nombre de mises en œuvre de différentes qui vont transformer la vision de l'œuvre. Alors je m'explique, c'est par exemple, pour faire très simple, une œuvre qu'on va pouvoir retourner et qui va être encore un masque ou encore un visage. Ça c'est quelque chose de très simple, de la réversibilité. Mais il y a plus compliqué, à l'intérieur des œuvres, il y a des mises en abîme par exemple, il y a des fusions entre différents types de formes animales, humaines, et Picasso et les artistes non occidentaux se sont servis des mêmes, non pas trucs, mais des mêmes types d'organisation formelle, parce qu'elles portent en elles-mêmes leur expressivité et leur magie.
Et puis le rapport au corps, à la nudité, au sexe, présent dans cette exposition, présent aussi bien sûr dans l'œuvre de Picasso. Est-ce que vous diriez que c'est la période primitive justement de Pablo Picasso?
Alors le rapport au corps, je l'ai choisi comme à un moment il faut choisir un certain nombre de thématiques. Je l'ai choisi pour pas aller vers la représentation de l'espace, le paysage, la nature morte, etc. Même si il peut emprunter ou si il peut donner une incarnation à une nature morte, c'est le cas par exemple d'un tableau de Marie-Thérèse qui est caché, le corps de Marie-Thérèse enceinte est caché dans une nature morte. Mais bon, ça fait partie de ces jeux de métamorphose dont je parlais. Mais l'idée du corps et de la sexualité, elle n'est pas à un seul moment dans la vie d'un homme ou d'une femme, elle est évidemment toute sa vie. Et c'est ce que Freud a montré aussi.
Mais pour la représenter, justement, pour cette représentation, alors, est-ce que la découverte, justement, de cet art africain a changé la manière de représenter le sexe, le corps, d'une manière peut-être plus libre ou libérée chez Pablo Picasso, Yves Le Fur?
Absolument. Ce qu'il voit là, c'est une comme Gauguin était parti et avait vécu une sorte de paradis de sexualité paradisiaque. Enfin, c'est l'image qui peut en donner. Ce que Picasso voit dans ces formes qui arrivent, qui n'étaient pas connues auparavant, c'est désinhibé. Le sexe est désinhibé parce que il ne correspond pas du tout aux mêmes enjeux. Il correspond pas à
une culture judéo-chrétienne.
À la culture judéo-chrétienne, exactement. Son rapport au corps. Et donc dans cette espèce de pulsion de liberté qui correspond aussi à la pulsion sexuelle, la pulsion libidinale qui dans laquelle il va aller puiser, Picasso va pouvoir exprimer une liberté qui va après ouvrir sur tout le XXe siècle.
Picasso primitif, c'est au musée Jacques Chirac, c'est le musée du Quai Branly, c'est jusqu'au 23 juillet. Merci Yves Le Fur, vous êtes le commissaire de l'exposition, merci d'être passé ce matin, vous en parler.
Merci à vous.